Les bonnes feuilles. 40 romans de la rentrée littéraire, lus par leur auteur. Aujourd'hui, ces amis qui enchantent la vie. Passion littéraire, de Jean-Marie Rouard. Apparaître aux éditions Robert Laffont.
Jean-Marie Rouard de l'Académie française, vous inaugurez les bonnes feuilles de l'été 2015, la lecture par leurs auteurs, dans leur voix, leurs intonations, leurs émotions, des premières pages de 40 textes attendus de la rentrée littéraire qui s'ouvrira cette année aux alentours du 20 août. Une manière de mettre l'eau à la bouche aux auditeurs de France Culture qui sont aussi, nous le savons, des lecteurs. L'occasion aussi de demander aux grandes plumes de la littérature contemporaine « Comment commencez-vous un roman ?» Par quels mots, quelles phrases? Comment s'attacher le lecteur dès l'ouverture du livre? Quel pacte lui proposez-vous? Quelle promesse lui offrez-vous? Et avec qui d'autre commencer cette série? D'autre qu'avec vous, Jean-Marie Rouard, qui publiez « Ses amis qui enchantent la vie », passion littéraire, en cette rentrée littéraire à venir. Et à travers ce livre, nous parcourons une sorte de grand voyage, à la fois intime, subjectif, mais aussi universel dans la littérature. Et je me suis dit que vous aviez une idée sur cette question-là de comment on commence un texte. Et d'ailleurs, vous allez tout de suite nous lire le tout début, premier paragraphe du livre que vous avez choisi de nous apporter, qui est en l'occurrence Anna Karénine.
Les familles heureuses se ressemblent toutes. Les familles malheureuses sont malheureuses chacune à leur façon. Tout était sans dessus-dessous dans la maison Oblonsky. Prévenue que son mari entretenait une liaison avec l'ancienne institutrice française de leurs enfants, la princesse s'était refusée net à vivre sous le même toit que lui. Le tragique de cette situation, qui se prolongeait depuis tantôt 3 jours, apparaissait dans toute son horreur, tant aux époux eux-mêmes qu'aux autres habitants du logis. Tous, depuis les membres de la famille jusqu'aux domestiques, comprenaient que leur vie en commun n'avait plus de raison d'être. Tous se sentaient dorénavant plus étrangers l'un à l'autre que les autres fortuits d'une auberge. Et tous les grands livres, en général, commencent bien. Cette récipe, c'est un peu le « là » pour un musicien. Et ce qu'il y a de curieux, c'est que, justement, pour Tolstoï, le début d'Anna Karénine n'était pas ce fameux début. C'était « les invités se retrouvèrent à la datcha ». Il a écrit tout son livre avec cette première phrase, et puis à la fin, il a changé la première phrase. Mais c'est vrai que ça donne le ton et ça donne l'unité. Et je crois qu'une grande œuvre, une belle œuvre en tout cas, elle existe par sa cohérence. Et une sorte de cohérence musicale. Voilà. Et c'est pour ça que cet incipit est important pour l'auteur, mais aussi pour le lecteur. Moi, il y a une phrase aussi que j'adore, qui est pour Romain Gary. « Avec l'amour d'une mère, la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais. » Ça, c'est formidable.
Prenons votre volume, Jean-Marie Rouard. Ces amis qui enchantent la vie, passion littéraire, qui s'apprête à paraître aux éditions Robert Laffont. Et nous allons commencer par la préface, une préface assez personnelle, comme nous allons l'entendre. Et puis ensuite, on entendra le début du chapitre que vous consacrez à l'écrivaine Colette.
C'était une île dans une ville lugubre, une île chaude, douillette, bercée par les alizés de l'infini. Dès mon retour de l'école, le cœur percé de mauvaises notes et lourd d'humiliation, ma mère m'installait en face d'elle, près d'un radiateur, assise sur un fauteuil Jacob en velours cramoisi, armée de son tricot aux grandes aiguilles, avec lesquelles elle confectionnait pour moi ses pullovers flasques et informes que d'avance je détestais. Elle allumait la TSF, posée sur un guidon tout proche, un grand poste qui crachouillait des parasites. Nous attendions avec ferveur le moment où commencerait l'émission « Rendez-vous à 5 heures » de Jean d'Ivoire. Et même avec un brin d'appréhension, tant nous avions besoin de cette émission pour nous embarquer hors du quotidien. Mais la voix de Jean d'Ivoire, admirablement ponctuelle, ne nous faisait pas défaut. Un rien cabotin Il semblait même pressé de la faire résonner sur les ondes, sa belle voix mélodieuse, radiophonique en diable, dont il était assurément fier, comme les gens doués d'un organe particulièrement flatteur, de beaux pectoraux ou un gros sexe. Il savait parler aux femmes auxquelles son émission s'adressait. Il employait des intonations de velours, ciselait de suggestives métaphores qui allumeraient des braises dans leur cœur. Dans cette heure oisive qui sépare l'après-midi des corvées du dîner, ce coq radiophonique les savait seuls, disponibles à ses conseils, au courrier du cœur ou à la rêverie. Sans doute, des milliers d'entre elles devaient-elles être amoureuses de la voix d'un homme qui savait si bien moduler ses intonations et se délecter d'un mot rare ou précieux, qu'il semblait alors sucer comme un bonbon. Mais ce n'était pas pour écouter ce séduisant phraseur que ma mère et moi nous installions à heure fixe devant notre vieux poste. Nous avions, dans le cadre de cette émission, un autre rendez-vous avec une femme dont j'ignorais alors quelle grande actrice elle était, Nathalie Nerval, une Russe, sociétaire de la Comédie française, douée d'une voix chaude, lointaine et mystérieuse. De sa voix grave, elle reprenait la lecture d'un roman interrompu la veille. Le fil n'était pas difficile à renouer. Deux ou trois indications suffisaient pour se remettre dans l'ambiance. Et la magie nous enveloppait, ma mère et moi. Plus rien ne comptait que cette voix et l'histoire qu'elle nous lisait avec autant de conviction que s'il se fût agi de sa propre histoire. Plus rien n'existait. Ni le petit appartement étriqué et mochard où nous vivions, ni la fenêtre donnant sur une cour sinistre d'où montaient le soir les effluves aigrelettes de l'arrière-cuisine d'un restaurant chinois. Ni sa vie à laquelle elle se résignait en souriant et qui n'avait tenu aucune des promesses d'un cœur pourtant modeste. Ni la mienne, esquissée, mais condamnée à une impasse, pire, à la médiocrité. Tout cela s'effaçait. Nous étions ailleurs, pas forcément avec des gens heureux ou riches ou favorisés par le destin. Il s'agissait souvent d'héroïnes de Daphné du Maurier, de Somerset Maugham, des sœurs Brontë, de jeunes filles nobles et pauvres qui rêvaient leur vie et qui étaient des proies idéales pour tomber dans le piège d'un suborneur ou d'un imposteur. Jeunes femmes mal mariées, abonnés au vague à l'âme, jeunes hommes des meilleures familles, frais moulus d'Oxford, entraînés dans les abîmes et la ruine par des créatures en perdition. Souvent les larmes nous montaient aux yeux devant les mésaventures de ces malheureux idéalistes trompés par la vie. Mais qu'importaient après tout ces malheurs qui n'étaient pas les nôtres ? Comme le temps passait vite, trop vite, dans ce séjour indiscret de la vie des autres, de leurs amours, de leurs illusions, de leurs rêves d'être riches, beaux et célèbres. Soudain, la voix de Nathalie Nerval s'évanouissait. Elle donnait rendez-vous pour le lendemain, et Jean d'Ivoire, impatient de jouer avec les volutes de sa voix ensorcelante, reprenait le micro. Ma mère et moi demeurions silencieux. La magie survivait, elle nous enveloppait. Une part de nous-mêmes restait à Aberdeen, à Torquay, avec les pauvres filles idéalistes, exilées du bonheur. Ma mère ne faisait pas de commentaires, pas de morale. Ce n'était pas son genre. La vie ne s'en charge-t-elle pas toute seule, sans qu'on ait besoin d'y ajouter son grain de sel ? Nous n'avions nul besoin de nous parler pour nous comprendre, et nous trouvions délicieux de nous rejoindre, au-dessus de nous-mêmes, dans un monde sinon idéal, du moins non médiocre, ce qui n'était, hélas, pas le cas d'une autre. Le craquement d'une clé dans la porte d'entrée mettait définitivement fin à la magie. Mon père rentrait, tout chargé de l'électricité du dehors, meurtri, blessé par les avanies et les déceptions. La vie courante lui était lourde, comme une épreuve de chaque instant où s'écorchait son âme d'artiste. Il était pressé de rejoindre sa palette, sa boîte à couleurs, l'essence de térébenthine dont il parfumait l'appartement et les oranges qui, sur un apron brodé, attendaient sagement qu'il les fasse exister sous son pinceau. Mais mon père avait beau être silencieux, immergé profondément dans son art, son inquiétude semblait continuer de battre la chamade et nous troublait. Ma mère et moi, nous nous regardions, et avec les yeux, nous nous disions « à demain ». Ce goût pour les histoires n'avait pas une désignation précise. Ce que j'aimais, c'était être emporté ailleurs, par une voix, en compagnie de ma mère. Ainsi, je ne me souviens d'aucun personnage ni d'aucun titre de ses romans que Nathalie Nerval avait l'art de faire revivre de sa voix suave. Sinon, de cette ambiance particulière aux œuvres anglo-saxonnes. La seule héroïne, c'était elle, cette voix. Et encore maintenant, je la garde dans l'oreille et je conserve de la curiosité pour son existence de femme russe que j'aimerais éclaircir un jour. Le fait d'avoir écouté non seulement des histoires, mais des histoires littéraires d'un roman, ça, chez moi, c'est vrai, ça a développé ce goût pour la magie et pour ce monde de l'imaginaire. Voilà, le monde de l'imaginaire qui vous fait échapper au réel et qui, en même temps, vous éclaire petit à petit sur vous-même.
Alors, on va vous entendre lire le tout début du chapitre que vous consacrez à Colette.
Colette, le naturel au service de la perversité. Colette aime les femmes, sensuellement, totalement. Leur animalité qui perce sous la sophistication lui rappelle ses compagnons favoris tout entiers, dominés par leurs instincts, toujours sous le joug de leurs appétits et des caresses. Elle les aime à travers elle-même, quand elle se regarde dans son miroir, observant d'un œil averti le galbe de ses seins et la cambrure de ses reins. Mais elle les aime aussi en se mettant dans la peau d'un homme qui les désire, pose des mains fébriles sur leur peau avant de les mettre dans son lit pour commettre des choses déraisonnables. Ce n'est pas un hasard si à la première occasion, sous prétexte de pantomime, elle s'est mise nue comme un ver sur la scène de music hall plus ou moins miteux pour exciter un peuple de mâles frustrés. Elle est grisée d'exhiber ses appâts et de sentir monter vers elle les vagues de désir. Quelle jouissance de voir dans les yeux des hommes ce trouble qui accompagne l'appétence sexuelle. Sa sexualité à elle, et c'est un trait qui la relie au lesbianisme dont elle ne fait pas mystère, c'est celle des préliminaires, d'où l'importance de la mise en scène et de la suggestion. Dessous troublants, corsage dégrafé, porte-jartel, tout ce qui précède un acte qui, finalement, ne mène à rien. Sinon à faire des enfants, ce qui, pour une libertine, n'est pas précisément le but recherché. Le plaisir pour elle, c'est ce théâtre de la séduction où l'on se dévore par les yeux, où l'on se prodigue par tous les moyens possibles de longues et soifs caresses que rompra comme un rabat-joie ce coït, non pas bestial, ce qui de sa part serait un immense compliment, mais mécanique, qui rompt un charme plutôt qu'il ne le perpétue. Sans vouloir franchir le mur de la vie privée, c'est une vision de femme frigide, très cérébrale, très sensuelle et pas du tout sexuelle.
Jamais acquis à l'âme ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit, ouvrir les bras, son ombre et celle d'une croix. Et quand il veut serrer son bonheur, il le croit. La vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour.
Cette chanson a eu beaucoup d'importance parce que je l'écoutais quand j'avais 17 ans et je pressentais qu'elle serait un peu, si vous voulez, la chanson que je pourrais mettre en exergue de tous mes livres. Voilà, où l'amour est très présent et où il est toujours très malheureux.
Qu'on avait habillé pour un autre destin. À croire que le servir de se lever matin.
Je crois que il y a un lien très profond entre la littérature et la musique. Et quand j'ai écrit ces textes qui précèdent justement ces extraits, j'ai essayé de retrouver la substance profonde, la musicalité qui accompagne. Je crois que c'est la clé. C'est la clé. Il faut retrouver. Pour comprendre un auteur, il faut retrouver la musique qui l'accompagne. Et je crois que pour chacun, en effet, chacun a sa musique propre. Vous savez, il y a des connivences étranges, des liens, des liaisons entre tous les arts. Moi, je crois qu'il y a des liens. Moi, je suis une famille de peintres, mais il y a des liens entre la peinture et la littérature. Il y a des liens entre la peinture et la musique. Et je crois que cette recherche de la vérité de l'art, il me semble que... Mais ce qui pourrait, c'est la recherche de quelque chose qui est artistique, donc qui n'est pas dit, qui est derrière les choses. Derrière la surface des choses, il y a quelque chose que chacun recherche. Que ce soit Renoir, que ce soit Stendhal, ou que ce soit Beethoven, vous voyez. Et il me semble que chacun, ils essaient de percer ce mystère, cette chose qui est derrière les choses, cette vérité qui est derrière les choses. Et c'est en cela qu'ils se ressemblent, mais il me semble que c'est par la musique que ce qui est le lien le plus fort, ce qui préexiste, c'est la musique, c'est la mélodie, et notamment avec la littérature. C'est vrai qu'un beau texte, il est musical.
Merci Jean-Marie Roy.
Merci.
Il n'y a pas d'amour. Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Que pleurer dans la nuit, nos cœurs à l'unisson. Ce qu'il faut de regret pour payer en frisson. Ce qu'il faut de merveille pour la moindre chanson, ce qu'il faut de sanglots pour un air de guitare. Il n'y a pas d'amour.
C'était Jean-Marie Rouard qui nous présentait Ses amis qui enchantent la vie, passion littéraire, à paraître aux éditions Robert Laffont. Thank you. Les Bonnefeuilles, Sandrine Trenner, Anne-Vanessa Prévost, Soma Nina, Valérie Lavalard.